Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveur et savoir autour de la cuisine. Une émission qui, comme tous les dimanches, comporte un plat du jour et une madeleine. Madeleine, aujourd'hui en forme de confidence de confiné, puisque Matteo Caranta a recueilli l'humeur d'une restauratrice à quelques jours de la réouverture de la terrasse de sa brasserie montpelliéraine. Une humeur que nous allons sonder précisément dans notre plat du jour, un plat de saison.
On a des tables de 6, des tables de 4, des tables de 2. Bon, là, on a installé comme ça, mais on devra certainement espacer plus, je pense, pour ce déconfinement.
Pour les petits restaurateurs que j'entends depuis hier, j'en ai eu certains au téléphone qui me disent « Mais écoute, ton truc, c'est pas praticable. » On va regarder, bien entendu.
C'est un manque à gagner, évidemment. Mais en tout cas, on réouvre. Donc, c'est le principal.
Merci. Ah oui, il y a trop longtemps qu'on boit le café debout. T'es meilleur quand on s'assoit.
Pour la soirée de réouverture le 19, on a plus de 40% de réservation. J'espère qu'il fera 35 degrés et qu'on pourra siroter un bon verre en terrasse, boire une bonne bière autour d'une carbonade ou d'un Welsh.
Et pour la suite, Christine ?
Alors, pour notre week-end, non, on laisse tomber, voilà, pas trop d'espoir. En revanche, le 19,
le déconfinement,
eh bien, écoutez, on a une poussée anticyclonique, on devrait avoir eu du beau temps.
Comme par hasard, tiens, réservé en terrasse.
Un jambon beurre en terrasse. Deux crèmes à la une.
Et deux.
Tenez. Payez vos garçons. Merci.
Que ne donnerions-nous pour un verre, une salade ou un simple steak frites en terrasse ? Le 19 mai, les restaurants devraient pouvoir accueillir de nouveau des clients en extérieur. Encore faut-il qu'ils possèdent une terrasse et que la clientèle, la main-d'œuvre et le beau temps soient au rendez-vous. Face à tant de conditions et d'incertitudes, certains ont prévu de garder leur rideau fermé, tandis que d'autres affichent déjà complet. Après un an de stop and go, les restaurateurs oscillent donc entre prudence et excitation. Alors, est-ce que la fête tente attendu aura bien lieu? Quelles évolutions attendent un secteur durablement affecté par la pandémie? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux invités du jour. Deux invités qui sont comme deux porte-parole. L'un en tant que journaliste culinaire et de sa bonne fréquentation d'un certain nombre de chefs, et puis l'autre comme président de l'Association française des restaurateurs. J'ai nommé Franck Pinera-Barouste. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du site gastronomique Atabula, qui a publié sur son site le mois dernier le premier volet d'un carnet de tendances du métier, un peu dans la lignée de ce que vous aviez fait en juillet 2020, un livre blanc sur les mutations de la restauration en France. Et puis avec nous en studio, Alain Fontaine, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui présidez l'Association française des maîtres restaurateurs. D'ailleurs, il faut nous dire un mot sur ce label de maître.
Ce titre.
Ce titre, d'accord. C'est un titre qui correspond à quoi, maître restaurateur ?
C'est un titre qui a été créé il y a 10 ans, c'est un titre d'État, c'est l'excellence, c'est 80% de produits frais. Fait maison, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ça répond à cela. C'est un peu le rempart contre la malbouffe, mais on a ce titre que pour 4 ans. Et tous les 4 ans, il y a un organisme certificateur qui vient nous redonner ce titre. Et l'AFMR doit faire la promotion de ce titre, qui est un titre d'État, je le rappelle. Et donc, tous les 4 ans, on remet notre titre en jeu. C'est pas à vie, avec un organisme certificateur qui vient par surprise. Et après, c'est la préfecture qui nous donne ce titre.
Alors, vous présidez l'Association des maîtres restaurateurs. Vous êtes restaurateur vous-même, puisque vous êtes propriétaire du bistrot parisien, le Mesturet, que vous appelez auberge de ville, si je ne m'abuse. Et puis, je n'oublie pas que vous présidez également l'Association pour la reconnaissance de l'art de vivre dans les bistrots et cafés de France. Très important, puisque vous militez pour la reconnaissance de cet art de vivre en tant que patrimoine culturel immatériel. Vous nous direz à la fin de l'émission, d'ailleurs, où ça en est, si vous le voulez bien, Alain Fontaine. Alors, avant de voir quelles questions pose cette réouverture promise pour mercredi prochain, nous aimerions nous interroger pour savoir ce qui a changé depuis un an. Est-ce qu'on reprend exactement là où les fourneaux se sont arrêtés? Est-ce qu'on adopte la livraison ou la street food comme mode d'être et modèle pérenne? Est-ce qu'on ralentit le rythme? Si tant est, alors c'est la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, si tant est qu'on arrive au bout du tunnel avec les étapes annoncées par le gouvernement, en un an de crise, Alain Fontaine, qu'a-t-on appris et qu'est-ce qui a changé pour vous dans le monde de la restauration?
On a appris beaucoup de choses. On a appris d'abord qu'on pouvait s'arrêter du jour au lendemain. comme chef d'entreprise, on n'avait pas connu ça, jamais. Nos pères et nos grands-pères l'avaient peut-être connu pour des raisons beaucoup plus graves, mais sur Paris, non. Les bistrots et les cafés, même sur la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation que Paris a subie, les bistrots et les restaurants sont restés ouverts. Donc nous, ça a été un choc, une surprise, et je dirais que pendant 2 mois et demi, on a été dans la curiosité, non pas dans l'attentisme, mais dans l'expectative. On se demandait ce qui nous arrivait. Et puis sur le deuxième confinement du 29 octobre, là, ça a été vraiment très dur. Le désarroi, l'amertume, parce qu'il faut savoir qu'avec les syndicats et le gouvernement, un protocole sanitaire très strict avait été mis en place. Donc on se sentait à l'abri. Et jamais, jamais, on aurait pensé refermer. Et puis ça s'est fait. Et là, beaucoup de choses se sont mises en place. On sentait bien qu'il y avait cette affaire de vente à emporter. On sentait bien qu'il y avait cette affaire de livraison à domicile, de Dark Kitchen, c'est une actualité en ce moment. On sentait bien aussi que notre personnel était un petit peu désabusé. Par conséquent, les choses ont changé. Et effectivement, quand on va rouvrir... Partiellement, je rappelle quand même que 50% de restaurants ont des terrasses en France et que sur 50%, pour des raisons de modèle économique, comme vous l'avez précisé, certains ne rouvriront pas leurs terrasses tout de suite, même si Bruno Le Maire, comme j'ai entendu sa voix, a fait un effort pour que les terrasses de moins de 10 tables puissent rouvrir. Malgré ça, le 19, effectivement, les choses auront changé. Évidemment, la vente à emporter s'est installée. La livraison à domicile va sûrement perdurer dans des conditions pas dans de bonnes conditions, mais vous aborderez peut-être le sujet avec l'autre interlocuteur qui connaît bien la situation aussi. On sait très bien que cette situation nouvelle va provoquer des changements dans la fréquentation de nos établissements. Ce que nous appelons le rentrisme, c'est-à-dire les gens qui sont devant leur ordinateur ou devant leur télévision ont changé leurs habitudes. Ils préfèrent, mais ça on le verra à la fin, mais ils préfèrent échanger avec leur communauté plutôt que d'échanger avec l'autre communauté dans un bistrot. Car quand vous êtes dans un bistrot, dans un café, vous êtes en face à d'autres communautés. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes avec votre communauté. Et donc, c'est vrai que ce mélange, ce brassage que les bistrots et les cafés ont, là, il y a effectivement un risque. Et puis, il y a d'autres risques, bien sûr, pour nos agriculteurs qui nous fournissent en produits frais, en proximité. Et là, c'est vrai que la vente emportée, la livraison à domicile fait appel bien souvent à ce qu'on pourrait appeler la malbouffe.
Franck Pinera-Barouste, de tout ce que vient de dire Alain Fontaine, est-ce que vous diriez que les chefs que vous avez rencontrés, que pour le carnet de tendance notamment, ou même ceux que vous aviez rencontrés pour le livre blanc de juillet 2020, confirment ce que vous aviez vu ?
Oui, je rejoins bien sûr les propos d'Alain Fontaine qui analyse très très bien la situation. Je pense que presque on va dire que rien n'a changé, tout a changé. Le métier reste le même, mais on a vu effectivement le click and collect a été abordé dans l'émission. Je pense qu'il y a aujourd'hui une diversification des activités du chef, peut-être comme jamais ça a été le cas. Aujourd'hui, on voit parce que administrativement, les restaurants peuvent fermer du jour au lendemain. Tous aujourd'hui pensent à la façon de diversifier leur activité, de pérenniser leur activité d'un point de vue économique. Et donc, en diversifiant les activités, donc le click and collect est une piste. Et aujourd'hui, on voit l'émergence de nouveaux modèles de restaurants, donc notamment les dark kitchens, hein, donc c'est-à-dire ces restaurants qui n'accueillent pas de public, mais qui envoient via des grandes plateformes à manger à domicile. Mais je pense qu'en réalité, le monde de la restauration a changé dans toutes ses dimensions. Les ressources humaines, on voit aujourd'hui, on estime 100 000, 110 000, 150 000. En tout cas, on estime qu'il y a un manque crucial, énorme de personnes pouvant travailler dans les restaurants. Et peut-être qu'il y a des chefs qui ne pourront pas rouvrir leur restaurant. Et tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il y aura la grande fête dans les jours qui viennent avec la réouverture? Certains chefs aimeraient, mais ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines. Et ça, c'est très important aussi de le dire. Les chefs, mais donc aussi toutes les personnes qui travaillent dans les brigades, ont découvert une forme de nouveau rythme de vie. Travailler tard, tout en continu ou pas, avec les coupures, travailler les week-ends. Et ça, on sent aujourd'hui qu'il y a une vraie problématique de formation, peut-être qu'on y reviendra, mais cette crise a aussi fait émerger de nouvelles problématiques dans la formation des futurs cuisiniers. Mais on voit aussi qu'il y a une résilience, donc de par cette diversification. Mais je pense aussi qu'on a vu quelque chose de très 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 fort, qui est le pouvoir politique, donc économique, les deux sont souvent liés, du monde de la restauration. quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas du tout de cet univers-là, tous me disent « mais c'est incroyable comme vous avez réussi à vous faire entendre pendant cette crise », quitte d'ailleurs parfois à susciter aussi quelques jalousies d'autres corps de métier.
Oui, et à penser que c'était une défense corporatiste qu'on a pu entendre pendant, en tous les cas, le premier confinement.
Absolument, mais en tout cas, je pense que là, les restaurateurs ont aussi pris conscience de l'importance des syndicats qui avaient un rôle pas dire secondaire, mais qui n'était pas central en tout cas ces dernières années. Souvent, cette place était prise par des chefs à grande gueule, on va dire, hein, permettez-moi l'expression. Et là, aujourd'hui, les syndicats ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer parce qu'ils étaient souvent les intermédiaires privilégiés des politiques. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les syndicats, les deux principaux syndicats, qui sont le GNI et l'UMI, cherchent actuellement à se regrouper, à se réunir pour demain, en fonction de malheureusement ce qui pourrait nous arriver, être encore plus fort dans le discours politique et aider encore plus les restaurateurs à résister aux différentes crises qui pourraient advenir dans l'avenir.
Alain Fontaine, la pandémie a aussi changé nos pratiques alimentaires. Si je me place du côté des consommateurs et non des restaurateurs, nous avons beaucoup cuisiné au point qu'on parle maintenant d'un ras-le-bol et c'est peut-être aussi ce plaisir de retrouver les restaurants bientôt, mais aussi dans l'idée que il fallait que le simple, et là ça rejoint peut-être les problématiques que vous, chef cuisinier, restaurateur, avez, que le simple ne doit plus être luxueux. Est-ce que vous avez ressenti cela, même si dans votre bistrot trop parisien, le luxe ou le côté étoilé gastronomique du restaurant n'est peut-être pas premier, mais est-ce que vous sentez ça du point de vue des restaurateurs que vous représentez à l'Association française des maîtres restaurateurs ?
Alors nous, c'est très simple parce qu'effectivement, nous, on va de la plus petite auberge au fin fond de la France, et un petit bistrot, aux étoilés. Et on a des étoilés, des 3 étoiles, des 2 étoiles. Donc, on représente toute la gamme de la restauration française. Alors nous, ce que l'on souhaite, c'est l'excellence. On sait que dans tous les chefs que nous avons, certains sont doués, plus ou moins doués. Vous savez, c'est comme le football. Tout le monde peut jouer au football. Et puis dedans, vous avez des gens qui sont doués.
Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, quoi.
Beaucoup. Et la cuisine, c'est pareil. Vous avez des gens extrêmement doués. Et puis, tout le monde, pour autant, fait du football. Et donc, la cuisine, c'est pareil. Et évidemment, quand vous avez l'excellence, quand vous avez les bons produits, c'est-à-dire que vous allez chercher à proximité vos produits, que ce soit des produits de la terre, que ce soit des produits de l'élevage, eh bien, vous avez déjà le produit. Et quand le produit est bon, il faut vraiment être très très mauvais pour pas arriver à sortir quelque chose de bon. Et donc, la plupart des chefs de cuisine, la quasi-majorité des chefs de cuisine sont quand même on a été bien formés, sont de bons cuisiniers, tout comme nos mères et nos grands-mères, sans qui on n'aurait pas été cuisiniers, vraisemblablement. Eh bien, on arrive à sortir quelque chose de bien. Ce qui est important, c'est le produit. Le produit est là, et c'est là où, et je sais pas ce qu'en pensera mon interlocuteur, c'est là où il ne faut pas avoir un discours de façade. C'est-à-dire, il faut vraiment travailler avec l'agriculture française. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas en affichant la tête des producteurs en photo devant des magasins ou d'expliquer qu'on met les producteurs en avant et qu'on ne le fait pas. Et le problème de l'agriculture que l'on ressent, suite à la loi Egalim et suite aux états généraux de l'alimentation, il y a un problème dans l'agriculture française. Il faut que les chefs de cuisine sont des passeurs, non seulement des passeurs de mémoire, mais des passeurs aussi de savoir-faire, c'est la transmission. Et il faut qu'on fasse attention à ça, qu'on travaille vraiment avec nos petits producteurs et pas faire semblant.
Est-ce que, Franck Pinière-Abarouste, vous avez constaté que la crise, de ce point de vue, a accentué une tendance de fond, à savoir un engagement des restaurateurs dans un sens plus social, plus écologique, un peu marre de la cuisine spectacle, au fond?
Alors oui, bien évidemment que la crise, de toute manière, on sait que les crises en général ne font pas naître des tendances, elles ne font que les accélérer. Et on voit aujourd'hui une prise de conscience encore plus aiguë de tous les acteurs de la restauration en faveur des circuits courts, de la saisonnalité, du bio, même si le bio a encore une place à part dans le discours gastronomique, mais tout au moins un discours effectivement très responsable de tous les acteurs de l'écosystème de la restauration. Après, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons fait sur Atabula plusieurs sujets là-dessus. Nous avons interviewé, rencontré beaucoup de producteurs qui travaillent avec des chefs bistronomiques, étoilés, tout ce qu'on veut. Et plusieurs nous ont dit que certains prenaient quelques produits chez eux, Ils sont parfois plus chers parce qu'ils travaillent autrement le produit, avec plus d'attention, plus de temps, etc. Et que certains s'en servent comme une vitrine, notamment ce qu'on appelle le name dropping, c'est-à-dire le fait de mettre sur la carte la langouste qui vient de tel endroit, l'écrevisse, la viande, etc., etc. Mais en réalité, n'en prennent qu'une infime partie pour être dans les clous juridiques. Mais malheureusement, en réalité, leurs produits peuvent venir de beaucoup plus loin. Donc, il y a eu une forme de discours marketing pour
qui
dire...
Doit plus passer aux actes. Qui doit plus passer
voilà,
aux actes pour vous.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu pendant cette crise aussi, et ça, on en a parlé aussi avec beaucoup de producteurs sur Atabila, c'est que les producteurs, il y a une forme d'inversion, si vous voulez, des tendances. Il y a beaucoup de chefs qui disent, moi maintenant, je ne demande plus ça et ça à mon producteur, mais c'est le producteur qui me dit, aujourd'hui, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse, oui ou non. Et les chefs, on va dire les chefs qui travaillent bien, ont compris depuis longtemps cette démarche-là. La carte s'adapte à ce que donne la terre ou la mer tel jour, et pas le contraire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était en partie réel et en partie un simple discours de quelques professionnels. Et j'espère, mais je le sens en tout cas, que demain, de plus en plus, on ira vers cette tendance-là, ce qui veut dire à terme une inversion quelque part du pouvoir qui sera tenu entre les mains de ceux qui ont les mains dans le produit, c'est-à-dire les producteurs et les fournisseurs au sens large, et que le chef va adapter sa cuisine à ce que donne, la mère nourricière, si vous voulez.
Allez, on poursuit cette conversation après la Madeleine par Matteo Caranta. Une Madeleine aujourd'hui en forme de confidence de confiné. Il est 12h16 sur France Culture. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors régulièrement, le temps où les rideaux étaient fermés, vous êtes allé à la rencontre de chefs pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et puis là, vous avez eu envie de passer un coup de fil, alors je crois à une maison reconnue de Montpellier.
Pour cette confidence de confiné, j'ai rencontré la sommelière Anne Lapierre, de cette famille précurseur du vin nature et de la microbiologie en France. Anne Lapierre qui tient, avec son associé Gwenaël Boiram en cuisine, un bar à vin cave à manger, les Canons à Montpellier. Le restaurant compte une terrasse. Il se prépare donc à rouvrir en partie ce mercredi 19 mai, après de longs mois de fermeture.
On est plutôt content d'entendre que le déconfinement se met en route. Après, nous, là, au sujet des terrasses, on va bien sûr réouvrir le 19, mais avec une capacité vraiment très limitée. Ce sera vraiment pas pour, entre guillemets, faire de l'argent, mais plutôt recommencer à voir nos clients et à exercer notre métier, parce que là, finalement, on avait un peu oublié de faire notre métier, celui-là, la convivialité, de partager, de discuter. Et c'est ça qui nous manque, donc on va le faire quand même le 19 sur la ouverture des terrasses.
Et remettre en marche la machine des fournisseurs, par exemple, c'est quelque chose auquel vous vous confrontez ?
Bah, là, par exemple, oui, ça fait une semaine que je me suis remis dedans, voire même deux. Bah, au niveau des vignerons, ça, on n'a pas trop arrêté, parce qu'on en a profité justement pour aller les voir, prendre ce temps pour aller déguster et continuer à voir ce qu'ils font. Mais oui, tout ce qui est fourniture sèche, viande... produits laitiers, il faut quand même deux bonnes semaines pour se mettre à jour. En fait, on vient, on regarde ce qu'il y a dans les frigos, on essaie d'imaginer un peu la carte, on fait des listes et on remplit les frigos tout doucement. Bon, on va commencer surtout aujourd'hui, mais les listes sont faites depuis deux semaines, ouais. Ça prend du temps. Il faut bien s'organiser. Alors nous, on a continué à vendre du vin pendant le confinement et même de la nourriture à emporter. On n'a pas continué très longtemps parce qu'au bout d'un moment, on se rendait compte que les gens en fait, faisaient beaucoup à manger chez eux aussi. Et pour nous, c'était assez long, on ne vendait pas énormément de menus, nous on est en ville. Et ce qu'on proposait à manger à la maison, réchauffer nos plats, c'est pas vraiment l'idéal. Et on voulait pas se lancer dans des burgers ou des pizzas. Donc on a vraiment continué un peu caviste. Et au bout d'un moment, on a eu vraiment marre d'être là toute la journée. C'était pas notre métier. Mon métier, c'est plutôt l'échange, de parler, de vivre une émotion sur la dégustation. Moi, je vends du vin sur des plats ou même sur un apéro, sur une émotion vivante d'un instant T, quoi. Donc l'emporter fait partie vraiment, c'est à 10% de notre activité. Donc nous, le métier, c'est l'émotion, l'échange et la convivialité, quoi. On a une petite terrasse, mais c'est vrai qu'on est chanceux, on est quand même à Montpellier, il fait beau. Et on a une plus grosse terrasse que la plupart des Parisiens, c'est certain. On va faire le mètre ou mètre et demi obligatoire, selon ce qu'ils diront dans les décrets. Et on mettra que la moitié de la capacité de notre terrasse. Et on essaiera de faire par contre un service non-stop de midi à 21h, puisqu'en plus de ça, il y aura le couvre-feu. Donc c'est-à-dire que 21h, tout le monde devrait être chez soi et sera parti du restaurant. Alors, ça vaut la peine pour nous l'émotion et le ras-le-bol qu'on en a pour essayer de pas justement tomber dans cette dépression. On veut vraiment revoir nos clients. Mais ça, monétairement parlant, ça vaut pas la peine. Mais on va le faire jusqu'à ce que ça revienne à la normale.
Voilà, ça vaut la peine pour l'émotion, l'échange et la convivialité, mais monétairement, disait Anne Lapierre, ça n'est pas rentable. Alain Fontaine, en tant que président de l'Association française des maîtres restaurateurs, est-ce que vous avez le sentiment que c'est l'état d'esprit largement partagé aujourd'hui par les restaurateurs que vous représentez ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, en province, ils vont pouvoir rouvrir et ils ont des espaces, elle l'a dit d'ailleurs, oui, l'interlocutrice, ils ont des espaces plus importants. Donc je pense que certaines terrasses vont être rentables tout de suite. Les repas familiaux du samedi dimanche, du prochain samedi dimanche vont se refaire. Je pense que la province, ça va aller. Par contre, sur les grandes villes, Paris et d'autres, on a effectivement un problème de dimension. Certains ne pourront pas rouvrir, on l'a dit tout à l'heure. Mais je crois... Et là, elle a appuyé là-dessus. L'important, c'est qu'on rouvre. La frustration est totale. Psychologiquement, c'est maintenant, il faut rouvrir. Vous avez certains de mes confrères, mais certains aussi certains employés sont au bout du rouleau. Nous, on est fait pour ce travail. Il ne faut pas oublier que ce métier, nous l'avons commencé très jeune, 14, 15 ans, 16 ans. Et donc, quand on nous a arrêtés du jour au lendemain, avec les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure, ça a laissé des traces psychologiques. Il faut rouvrir, il faut retrouver notre deuxième famille. Vous savez, dans les bistrots, les cafés, mais pas que, nous sommes... Il y a la famille, notre famille, les enfants, nos femmes ou nos maris. Et puis, il y a l'autre famille des clients que l'on voit souvent tous les jours. Ces gens-là, ce sont notre vie privée et publique, c'est un peu la même. C'est notre grande famille. Et cette famille a été brisée du jour au lendemain deux fois de suite. Vous parliez du stop and go tout à l'heure. Bien évidemment, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on a envie de rouvrir. Et surtout, on veut pas refaire le stop and go. Mais on a besoin de revoir nos clients. Et c'est pas le tiroir caisse qui va nous intéresser dans les jours qui viennent. Faut pas nous voir comme des harpagons. On n'est pas là pour prendre la cassette et l'envoyer au four du jardin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de revoir nos clients, de ressourire, de servir du vin ou du café ou du thé, mais de reparler du tout, du petites choses ou des choses plus importantes. On a besoin de se revoir, pas de se toucher encore, pas de s'embrasser, mais ça viendra dans les mois. Il va falloir être très strict et très discipliné dans les semaines qui viennent, on le sait, pour pas justement faire ce stop and go, mais on a besoin de revoir.
Vous dites que c'est pas le tiroir caisse qui compte, mais il compte quand même, surtout dans un moment particulièrement difficile. Est-ce que vous avez des garanties de la part de l'État? Des aides qui continuent ou qui s'arrêtent en fonction de la rouverture?
Les syndicats, comme l'a dit votre interlocuteur Databula, les syndicats ont fait un remarquable travail, tant au niveau protocole sanitaire qu'au niveau financier, avec ce bouclier économique et social qui s'est mis en place. Pour autant, j'ai bien peur pour que certaines zones très touristiques, Paris en fait partie, mais il y en a d'autres, la dégressivité du gouvernement qui a été étudiée est trop rapide. Je pense qu'on se donne pas le feedback, c'est-à-dire qu'ils vont nous arrêter les aides grosso modo fin septembre, avec une dégressivité qui va commencer au mois de juin. Et je pense qu'on ne sait pas, et vous avez eu raison d'évoquer le sujet, on ne sait pas les tendances de consommation qui vont être en place. Il faudrait se laisser septembre et octobre, avoir du recul, mais aussi avoir du recul par rapport aux touristes, parce que des villes comme Paris et d'autres vivent avec le tourisme. Pourquoi certains grands chefs ne vont pas rouvrir cet été à Paris? Pour simplement parce qu'ils sont tellement connus dans le monde entier que juillet et août, comme il n'y a pas de Parisiens, ils font leur fréquentation avec les touristes étrangers. Donc la question, elle est là. Et je crois que la dégressivité, même si on a été très bien aidé, et ça, personne ne peut le contester, la dégressivité est trop rapide pour certains secteurs, pour certaines régions.
Franck Pinera-Barousse, que vous dit votre petit doigt, si je peux m'exprimer ainsi, quant à la fréquentation des lieux de restauration à partir de mercredi, aussi bien quant à la réouverture de certains, dont nous a parlé à l'instant Alain Fontaine, que des consommateurs, tout simplement. Comment vous pressentez les choses?
Alors, mon petit doigt m'a dit beaucoup de choses en la matière et je pense qu'il va avoir un véritable élan. Il va avoir un véritable élan dans les jours qui viennent, si la météo le permet.
Et encore, certains disent même s'il pleut, on ira.
Oui, ça, bon.
On verra.
peut-être qu'ils iront une fois, mais pas deux fois. Je pense qu'il va y avoir un élan. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a un véritable élan. Je pense que, et c'est ce que dit Alain Fontaine, je pense que la vraie question va être sur la longue durée. Je pense que jusqu'à maintenant, les aides de l'État, et j'y reviendrai juste après, ont permis à un secteur de, je crois, à vérifier, mais qui n'a jamais connu aussi peu de faillites ces derniers mois, parce que les aides étaient là et qu'on est dans un monde dans l'attente économique et dans l'attente également, bien sûr, du client, de la reprise du travail. Mais néanmoins, je pense qu'il y aura des vrais trous d'air. Alors après, il faudra distinguer Paris, province, petite ville, grande ville. C'est très complexe. On sait que l'été va être très profitable pour les zones touristiques parce que on va avoir un tourisme domestique, comme l'an dernier, la Bretagne, la Côte d'Azur et la montagne aussi d'ailleurs vont connaître un mouvement touristique très fort. Les grandes villes, et notamment Paris, va probablement beaucoup souffrir. Effectivement, des chefs aujourd'hui, des restaurateurs, préfèrent rester fermés que de prendre un risque économique.
Comme on a un chef restaurateur avec nous ce midi, je vais en profiter pour lui poser la question directement. Alain Fontaine, est-ce que vous allez rouvrir le Mesturel 19 ou est-ce que vous allez aussi attendre le 9 juin ?
Ah non, moi je rouvre le 19, je peux plus continuer comme ça. Et on est beaucoup comme ça, on va rouvrir le 19, on va effectivement prendre des risques. Je les ai considérés bien évidemment, mais certains d'entre nous, on peut pas continuer comme ça. Après, vous avez des chefs d'entreprise, car on est chef, mais on est chef d'entreprise également, qui ont une vision plus pragmatique de la chose et qui effectivement ne veulent pas prendre de risques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un historique. L'année dernière, on a tous été, mais sur Paris, on a tous été dans le mur. Clairement, on a perdu 61% de chiffre d'affaires. Et on avait sorti des gens du chômage partiel et on avait fait rentrer du vin et des vivres.
Et là, vous avez donc, par exemple, fait construire une terrasse végétalisée. Oui. Vous n'aviez pas de terrasse, vous l'avez fait construire pour une petite terrasse pour accueillir une dizaine de personnes ou une grosse terrasse ?
Un peu plus, on a profité des places de stationnement qui étaient devant nous et qui nous sont offertes par la mairie de Paris. Je crois que Mme Hidalgo et Mme Polski, son adjointe au commerce, ont fait le nécessaire, malgré la ligne de crête avec les riverains, parce que bon, le bruit des terrasses, c'est quelque chose. Donc elles sont sur cette ligne de crête compliquée, de nous offrir ces terrasses éphémères qui pourrait être pérennisé à l'avenir. Donc on a fait quelque chose de beau, de végétalisé. On l'a fait de nos mains parce qu'on n'avait pas les moyens. Je suis passé d'un devis à 28 000 euros à 3 000 euros. Donc,
avec vous aussi et vos planches de bois.
Nos planches de bois, on a fait quelque chose de très beau, très végétalisé. Et donc, si vous voulez, oui, on va ouvrir. On va ouvrir. Pourquoi ? Parce que c'est un moment de soulagement considérable. Alors, je dis pas que c'est la libération de Paris, on n'en est pas là quand même, mais c'est un moment de soulagement extraordinaire. Le midi, moi, je vais faire de la restauration, le 19, mais le soir, je n'en ferai pas. Je fais venir un orchestre et je vais offrir la première coupe de champagne.
C'est la fête, quoi.
C'est une sorte de fête. Alors, c'est pas, je vous dis, c'est pas la libération de Paris, mais c'est un soulagement énorme parce qu'on n'avait pas connu ça. Et moi, j'ai 63 ans, je cache pas mon âge. Je veux pas finir comme ça. Je veux dire, c'est pas possible de finir comme ça.
Et le 19 à midi, qu'est-ce que vous avez prévu ? Puisque vous continuez dans la vente à emporter quand même.
Alors,
aussi.
Ça va être à deux choses. On va faire un de la vente à emporter évidemment. Puis, comme la route du poisson qui aura lieu en septembre commence à communiquer, mercredi justement, je vais avoir un attelage avec des beaux chevaux du nord de la France et avec un attelage et je vais faire du poisson. Je vais faire alors par contre de la truite de Merville, un tartare de truite de Merville à la moutarde de Provins, Merville dans l'Essonne, Provins dans le 77. Je vais faire un lieu jaune rôti au poivron confit avec un risotto de maïs et une mousse de petits pois frais de l'Île-de-France. Et puis, je vais terminer par une recette très parisienne qui est un royal au chocolat pour les fans de chocolat.
Eh bien, vous nous avez fait saliver. Merci beaucoup, Alain Fontaine. On vous souhaite une très bonne fête de réouverture. Merci beaucoup, Franck Pinert-Abarousse, d'avoir participé également à cette émission. Et je renvoie les auditrices et les auditeurs à Atabula, sur le site duquel on peut trouver le carnet de tendance et évidemment le livre blanc que vous aviez fait paraître en juillet dernier. Merci encore. Et puisque nous avons parlé de la réouverture des restaurants, j'invite tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à se rendre sur le site de franceculture.fr pour réécouter l'émission hier Concordance des temps qui parlait de la naissance du restaurant en compagnie de l'historien Antoine Debac. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez, bien sûr, sur franceculture.fr justement et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson. Nous vous souhaitons
souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Witzmann.